tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Radio Sourire.
Radio Grenouille.
Côte à côte.
Côte à côte.
Nos chottes.
Nos chottes.
Côte à côte.
Ou à la chotte.
Culture.
Ou Baharna.
Côte à côte.
Méditerranée.
Jambe la jambe.
On va finir par se comprendre.
Marhaba.
Partage.
Côte à côte.
Côte à côte.
Salut alaikum.
Dafda.
Radio Grenouille.
Bienvenue à toutes et tous dans le deuxième épisode de Côte à Côte, notre rendez-vous mensuel sur Radio Grenouille et Radio Souriali, un programme conçu ensemble pour tendre un pont entre le Moyen-Orient et la France, en conjuguant les voix d'ici et de là-bas. Aujourd'hui, nous allons explorer, au travers d'entretiens et de témoignages, la façon dont les artistes syriens parlent de leur pays, meurtri depuis plus de 4 ans dans une guerre en apparence sans fin. Comment représenter l'inimaginable? Comment traverser les silences médiatiques et faire parler de la guerre, la faire comprendre en saisissant ses propres armes, du pinceau à la glaise, de la pellicule au verbe? Et enfin, comment, après l'exil, rassembler l'énergie des souvenirs pour se remettre à créer? Nous allons, pendant cette heure, accueillir plusieurs voix venues de Syrie. Nous vous diffuserons un entretien de 15 minutes avec le réalisateur Oussama Mohamed, son dernier film « Eau argentée », un autoportrait tragique co-réalisé avec la jeune cinéaste kurde Viam Simav Bedirkshan, est en salle actuellement. Et nous écouterons à ce propos la réaction du chirurgien syrien Adnan Seddik, réfugié en France depuis 1984. Le peintre Omar Ibrahim, aujourd'hui installé à Paris, sera avec nous dans un deuxième temps. Et nous entendrons également le célèbre caricaturiste Ali Ferzat, tabassé et laissé pour mort en 2011 pour ses dessins contestant le régime de Bachar al-Assad. Manière pour nous d'évoquer également les récents événements d'ici en France. Chronique culinaire où il sera question de frontières et agenda culturel viendront ponctuer, comme chaque mois, cet épisode de Côte à Côte. Bienvenue! C'est notre deuxième voyage sur les ondes de Radio Grenouille et de Radio Souriali.
Souriali.
Radio Grenouille.
Souriali.
La Syrie est à moi.
Culture.
Charbon Montawasset.
Côte à côte.
Entoussama Mohamed. Cinéma.
Ana, lam a'oud. Ana.
أين أنت الآن؟
أنا هنا في باريس.
هلا هوني بعد عند الناس بتنقد.
هل أنت نرجع؟
نحن نموت بكل ما في الحياة.
اسمي الكردي أحبه. سيماف ماء الفضة.
Sorti en décembre 2014 en France, Eau argentée, Syrie, autoportrait raconte plusieurs choses. Dans un premier temps, le film raconte et montre la guerre déchirant le peuple syrien depuis 2011 de façon sobre, crue, à partir d'images glanées sur YouTube. Scènes de torture, de manifestations, d'errance dans les décombres de Homs ou encore d'Alep. Oussama Mohamed, depuis Paris, assiste via son écran à la destruction de son pays qu'il a fui. De cette tension entre la distance, son pays et la révolution en cours est née une rencontre. Si ta caméra était à Homs, que filmerais-tu? Lui demande un jour, via messagerie instantanée, une jeune cinéaste kurde de 35 ans, Viam Simav Bedirkshan, totalement inconnue de lui. Il lui répond « Tout ». Et Eau argentée deviendra l'histoire de ce partage. Aux images de mauvaise qualité de YouTube viennent s'ajouter le regard et les réflexions à chaud de Simav, sa caméra clandestine pointée vers l'inénarrable. Et le résultat est beau et terrifiant. L'équipe de Côte à Côte a rencontré Oussama Mohamed en juillet 2014, en marge de la diffusion d'Eau argentée lors du Festival international de cinéma de Marseille. Un entretien fleuve, dont vous pourrez retrouver d'ailleurs l'intégralité sur le site de Radio Grenouille, où le réalisateur répond en arabe à nos questions écrites. Oussama Mohamed nous parle de la plus belle des manières de son pays, la Syrie, de son cinéma et de son utilité artistique et politique. Vous êtes sur Radio Grenouille, vous êtes sur Radio Souriali, et Oussama Mohamed est dans Côte à Côte.
Bonjour. Est-ce que l'humanité est une solidarité avec les victimes et les bourreaux ou les tueurs? Ce terme qu'on a eu du mal à traduire du français. On a hésité entre le tueur, le bourreau ou l'injuste, si on veut minimiser. C'est un moment touchant pour moi de rencontrer un journaliste de radio et recevoir ses questions l'une après l'autre. Et j'ai l'impression que c'est comme si on avait partagé plein de moments, notamment ceux de la quête d'expression cinématographique. L'humanité est-elle une solidarité avec la victime ou le bourreau ? Oui et non. Mais c'est plutôt oui. L'humanité est une notion mouvante et dynamique qui ne s'arrête pas à la solidarité. La solidarité n'est que la toute première condition, la toute première pour pouvoir être humain. Elle s'exprime par de nombreuses actions censées nous mener à l'humanité, si jamais on réussit à l'atteindre. La solidarité est la condition de réaliser ta propre humanité. La solidarité avec les victimes, on parle maintenant dans l'absolu. Les victimes sont nous. Quand je me solidarise avec la victime, je le fais avec le futur moi. Je cherche mon humanité dans l'avenir. Je pense que celui qui détourne le regard d'un crime perd soi-même. On gagne un peu de monde peut-être et on perd tout. Comme le disait le premier cinéaste, Jésus-Christ. Est-elle aussi une solidarité avec les bourreaux ? Encore une fois, le cinéma est un passage, temporel, reliant le passé et le présent au futur. C'est un aller-retour. Il est aussi une tentative de redessiner le monde de nouveau. Donc oui, dans ce passage, il y a aussi la solidarité avec les bourreaux. Mais le mot « solidarité » a besoin de trouver des alternatives en lui-même. Si on parle de films argentés en particulier, je crois qu'il y en a beaucoup qui se trouvent à cause de leurs fonctions ou leurs conditions de vie sociale et culturelle se trouvent dans la place du tueur. Une place qui ne voulait pas nécessairement. Je crois aujourd'hui que les soldats syriens, par exemple, sont pour la plupart des victimes, victimes de leurs conditions comme soldats. Tout soldat dans le monde est un tueur, un stand-by. Il lui est susceptible en attendant de tuer. Il est susceptible de tuer. Alors qu'il pourrait avoir toute la bonté du monde. Le cinéma et l'art ne classifient pas, mais elles essayent de toucher l'intérieur humain. Oui, c'est un moment d'accablement de trouver quelqu'un qui tue juste pour ne pas être tué. Parfois, c'est la seule possibilité pour survivre. Le futur ne pourrait pas être mieux si on n'arrive pas à avoir cette force profonde de solidarité avec le coupable. Ce n'est pas la solidarité avec l'acte même ou le pardonner, mais c'est chercher en lui le moment d'humanité qui aurait pu durer pour ne pas le rendre coupable. Le moment où il ne voulait pas tuer ou faire cet acte. Il faut reconnaître que c'est un moment, que ce moment fait partie du temps pour construire un futur optimiste. La deuxième question, est-ce que la première scène dans le film, quand le garçon embrasse les bottes du soldat, résume-t-elle le film ? Oui et non. Encore une fois, je suis surpris par la question, surpris par sa capacité de rendre compte du temps pris pour fabriquer le film. Le garçon embrasse les bottes du soldat. Oui, c'est un résumé, ou plutôt une condensation du rapport entre l'esclave et le maître, le gouverné et le gouverneur, la victime et le bourreau. C'est une question ouverte pour trouver si on peut parler de la Syrie aujourd'hui.
في الرحلة الطويلة التي قضيتها في البحث في الصور.
Au long de mon voyage à la recherche des images pour faire ce film,
اكتشفت أن
j'ai découvert
الصبي الذي يقبل حذاء الضابط
أو que ce garçon qui embrasse les bottes du soldat
بشكل أدق الضابط أو الجلاد
ou plus précisément le soldat ou le bourreau qui oblige le garçon à le faire, il ne s'agit pas d'un acte individuel ou unique. En contemplant des milliers d'images, j'ai découvert que c'est une logique profonde dans la culture du bourreau, qui peut être un officier ou un civil, qui ne peut se réaliser qu'en exerçant la violence sur un autrui. C'est encore une fois l'histoire de l'infériorité quand elle se trouve comme expression que la violence. Dans ce contexte, bombarder ou tirer sur quelqu'un ou tout acte similaire n'est qu'une autre forme de la volonté de se faire embrasser les bottes.
Trois.
Est-ce que le cinéma et l'image peuvent-ils changer? Que faire? Bien sûr, ce n'est pas un clin d'œil à Lénine et son fameux « que faire ». Oui, bien sûr, ils peuvent. Je pense que le cinéma et l'image peuvent construire ou aider à construire, à faire naître, à pousser une certaine culture de la beauté. Avec le temps, de pouvoir refuser la violence et et refuser tout ce qui n'appartient pas à la beauté. De cette façon ouverte, peut-être qu'ici, ouvrir la langue est plus exact que son exactitude. La réponse à la question, c'est que serait l'état du monde, de nous, de moi-même ici, si l'humanité n'avait pas produit au long de son histoire son œuvre esthétique d'œuvres d'art, de la littérature, de musique, des images, du cinéma. On serait très probablement tous couverts par les écailles de la violence et les écailles d'agressivité. L'image et le cinéma peuvent faire naître des nouvelles questions. Ces questions ne peuvent pas naître sans l'image. C'est une chance pour réaliser, pour une réalisation humaine plus évoluée ou plus, je n'en sais rien. L'image est une possibilité sublime de dialogue. Ou ce qui suggère, ou tout ce que peut suggérer la littérature ou la politique. L'image possède plusieurs niveaux, de pénétration dans l'inconscience, à une mémoire collective, esthétique ou pas esthétique, et une mémoire génétique que l'image peut éveiller ou la pousser à agir, même si cet acte ou cette action est certainement lente, mais on n'a pas le choix. On n'a que ce choix.
Vous écoutez Côte à Côte, rencontre mensuelle entre Radio Grenouille et Radio Souriali. Merci au réalisateur Oussama Mohamed d'avoir bien voulu évoquer avec nous les énergies terribles de son film Eau argentée, co-réalisé avec Viam Simav Bedirchan. Un entretien que vous pourrez retrouver en intégralité sur le site de Radio Grenouille, et je rappelle que Eau argentée est actuellement en salle.
Souriali.
Radio Grenouille.
Souriali.
La série est à moi.
Culture.
Charbon Montawasset. Côte à côte.
Pour compléter cette rencontre avec Oussama Mohamed, nous vous proposons d'écouter la réaction à chaud du docteur Adnan Seddik, captée par nos micros juste après sa diffusion au cinéma marseillais Le Gyptis. Exilé syrien installé à Paris depuis 1984, le docteur Adnan Seddik, par le biais de son association Souria Ouria, pour Syrie libre, effectue en permanence des allers-retours dans ce pays qu'il a quitté en vue d'améliorer les conditions de vie des centaines de milliers de réfugiés de guerre. Actuellement, un de ses plus gros combats passe par la création et la mise en service très prochaine d'un hôpital pour enfants dans le nord du pays. On l'écoute.
Je ne sais pas quelle réaction je peux dire de ce film. Je crois que c'est lui qui a des larmes pour pleurer, il n'en a plus. On n'en a plus de larmes pour pleurer. Ce pays, la Syrie, souffre depuis une quarantaine d'années. Ce n'est pas 4 ans, c'est multiplié par 10. Ce qu'on a vu, on a vu des images qui sont atroces, mais l'atrocité est beaucoup plus présente. Et jusqu'à ce jour, on ne peut pas imaginer un jour sans avoir des morts. On ne peut pas voir un jour sans avoir des gens qui souffrent, des orphelins, même des bâtiments entiers qui tombent sous des bombes aveugles lancées par des avions du régime sans aucune pitié et sous les yeux de tout le monde, de l'humanité entière, si on peut garder encore le mot humanité pour le monde. Moi, je me suis anéanti quand je vois Simav rester à Homs pendant un an. J'en connais des gens qui sont restés jusqu'à la sortie. Ils sont sortis de Homs. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire, bien sûr. Ils sont sortis, ils ont tout perdu. Ils n'ont rien, à part leurs enfants, leur famille et la rue. On est au 21e siècle et le monde reste aveugle et on ne fait rien. On ne fait absolument rien. Le régime tue beaucoup plus tout ce qu'elle a fait Daesh. Pour nous, je parle en plus en tant de médecin, la vie humaine n'a pas de prix dans toutes les religions, dans toutes les pensées, chez tous les gens qui sont vraiment, qui ont une part de l'humanité.
Those were brave men dying there. Peacetime, they'd all been normal, decent cowards, frightened of their wives, trembling for their bosses, terrified at the passing of the years. But war had made them gallant. They had been greedy men, now they were self-sacrificing. They had been selfish, now they were generous. And war isn't hell at all. Man at his best, the highest morality he's capable of.
Is it fight or is it flight? Exile? Just X-Files, Scully's get knocked down like let's fight. Being homesick got me less nice. Euro trip got me feeling you can't quench your thirst with ice. Let it melt, this heat inside made me leave home. Better circle back if I'm left without my rights. So you fixing that back? Oh, you chiropractic? No. Just wishing that sham take notes from what Cairo practiced. When they say sham, I mean Damascus. My shab, I mean the masses. It's in the sham when the media bankrupts up what happened. And you don't know what the fuck is going on. So I call back home, but pops can't tell you on the phone. There's Boston crab, that means everybody tap. Asses frozen, relatives kidnapped, ransom paid, but still he ain't back. Cash is gone, international sanctions can't withdraw. War, that is war. Tanks and guns right at your door. Enough little boys to win your war. Enough little girls to have some more. We don't want more, cause that's not pure. We need baptism, yeah. With some water. Now, let's have some order. Could it get some freedom, and could it please get peace with that? Without you trying to get a piece of that. Can I get a peace of mind? Can I get some sleep with that? No rest for the wicked till I have my dreams come back.
Cowardice will save the world. It's not war that's insane, you see. It's the morality of it. It's not greed and ambition that makes war. It's goodness.
Is it fight or is it flight? Exile? Are you in? Leave it all behind you and are you in? Arguing? Are you men? Are you if you stay home? Get strapped with arms and then boots on. Laced up like army men. Move on. Next block in the apartment. Get shot up. So what if they are your friends? Excuse me, sir. They were your friends. Keyword is word. When the war begins, you take up sides. When bridges burn, can't make amen. Yeah, we'll pay for this. Plenty sins, too many sins. No innocence to replenish this. Two words to distinguish this.
Exodus? Genesis. Ironically, Old Testament. Coincidence?
Estimates.
Conspiracies?
Evidence.
Don't take much to start these kids. Donate guns and promises. Homemade bombs and lots of shit that go through the bar.
And start a war. That is war. Tanks and guns right at your door. Enough little boys to win your war. Enough little girls.
girls to have some more. We don't want more, cause that's not pure. We need ablution, yeah. With holy water. Now let's stop the slaughter, I think we need to fast. Can I please eat halal without you trying to put beef with that? Can I see the greener grass? Can I eat some cheese on that? No picnic for the wicked until I get to feed my fam.
Wars are always fought for the best of reasons, for liberation or manifest destiny. Always against tyranny and always in the interest of humanity. So far this war we've managed to butcher some 10 million humans in the interest of humanity. Next war it seems we'll have to destroy all of man in order to preserve his damn dignity. Not war that's unnatural to us. It's virtue. As long as valor remains a virtue, we shall have soldiers. So, through cowardice, we shall all be saved.
C'est le rappeur syro-philippin Chino qui nous offre la première pause musicale dans ce côte à côte avec ce titre Fight or Flight, enregistré à Beyrouth. Continuons à dériver autour de l'art en exil dans Côte à Côte. Nous avons le plaisir d'accueillir, du moins par téléphone, Omar Ibrahim. Installé à Paris depuis 2 mois, Omar est syrien, peintre, et a dû quitter la Syrie au début de la révolution, la répression s'accélérant et la vie devenant de plus en plus difficile. Il est parti tenter sa chance en Arabie Saoudite, mais la situation n'était pas vraiment idéale pour lui qui, par exemple, aime dessiner des modèles nus. Omar est ensuite repassé par la Syrie en tant qu'humanitaire, puis a installé son atelier durant 2 ans au Liban et aujourd'hui Paris. Paris qui accueillera d'ailleurs sa prochaine exposition à partir du 22 janvier prochain. Omar Ibrahim, que signifie pour vous aujourd'hui être un artiste syrien ? Qu'est-ce que signifie pour vous être un artiste syrien réfugié ?
Okay. First, let's say about Syrian arts or Syrian.
Premièrement, être un artiste syrien est un challenge dans la situation actuelle. C'est une grande responsabilité pour moi, car tout le monde attend que vous parliez de la situation politique, de la révolution et de la crise qui traverse les Syriens. Et je pense que c'est très lourd à porter. En même temps, en tant qu'être humain qui vit dans un nouveau pays, je suis arrivé en France il y a 2 mois, je suis loin d'avoir une stabilité, c'est encore très confus. D'un côté, vous avez vos propres projets que vous portez depuis très longtemps, bien avant que la révolution n'ait même commencé. Et d'un autre côté, vous avez votre vie jour après jour à gérer. Donc être un artiste syrien réfugié, une fois que vous mettez tout ça ensemble, c'est une grande responsabilité, c'est une façon d'exprimer non seulement vos propres sentiments, mais aussi ceux des personnes qui partagent la même mentalité, la même vision du futur en tant qu'être humain, en tant que syrien. Pour toutes ces personnes qui traversent une crise terrible, qui ne sont pas forcément joignables, ces personnes, ce sont vos amis, vos parents, et ils sont loin. Donc pour le moment, pour moi, c'est une énorme responsabilité, c'est ça que je dois gérer.
Comment tu exprimes d'ailleurs cette responsabilité dans ton art, et est-ce que c'est plus simple de créer tout ça aujourd'hui à Paris ?
Pour être honnête, non, ce n'est pas facile du tout. C'est très difficile même. Arriver dans un nouveau lieu, un nouveau langage, un nouveau pays, tu dois tout réapprendre. Et en même temps, tu as tes propres projets que tu portes depuis longtemps, comme je te disais. Et tu dois trouver un équilibre entre ta nouvelle vie dans ton nouveau pays, tes propres projets d'avant la révolution et les projets qui ont découlé de la révolution. Tu dois te préoccuper de ta démarche artistique, de ce qui fait de toi un artiste, de créer, monter une exposition autour de tes peintures.
At the same time, to add this effect that you have it in your country through the 4 years.
Et en même temps, ce qu'il se passe dans ton propre pays depuis 4 ans, ce que tu as vécu au Liban avant. Je ne sais pas comment le dire. Ce que tu dois vivre aujourd'hui est influencé par tout ça et ce en quoi tu crois. Donc, pour être honnête, non, ce n'est pas facile du tout.
Après ton passage en Arabie Saoudite, tu es retourné en Syrie. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es revenu dans ton pays? Comment tu as vécu la vision de cette destruction, de ces divisions dans ton pays?
To be honest, it's not easy at all.
Ce n'est pas facile du tout, pour être honnête. Tout est différent. Nous avons un rapport spécial, mémoriel avec Damas. Pour nous, cette ville, cela représente beaucoup en tant que Syrien. Voir Damas et la Syrie si divisées, de cette manière, c'est très très douloureux. Et les souvenirs de la ville que tu as reviennent tout le temps, tes habitudes, ta vie que tu dois changer maintenant. Je pense que tout le temps tu auras ce genre de souvenirs de la capitale, des endroits que tu as traversés, des gens que tu as pu rencontrer. Je pense que tous ces changements que nous avons vécus durant ces 4 ans de guerre représentent bien plus que ceux de toute notre vie.
Omar, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Beyrouth et de la façon dont vivent les artistes syriens réfugiés à Beyrouth? J'ai entendu dire que dans la société civile, il y avait une sorte de racisme historique entre les Libanais et les Syriens, et j'aurais aimé savoir si c'était également le cas pour les relations entre artistes.
C'est à peu près la même chose, mais le niveau est différent. Quand vous avez affaire à des personnes éduquées, c'est tout de suite mieux pour tisser des liens, se faire des amis, se faire un réseau. Mais de l'intérieur, vous pouvez entendre des choses, sentir des choses et se retrouver parfois confronté à des situations très compliquées à gérer. En général, les artistes syriens, avant d'être réfugiés, étaient confrontés aux mêmes difficultés que les autres. Être artiste est un métier dur, vous devez prendre beaucoup de risques, même en temps normal. Dans notre situation, quand les artistes syriens ont migré au Liban, il est évident qu'ils n'avaient pas trop le choix. Certains rejoignaient des connaissances, d'autres n'avaient vraiment pas d'autres options. Certains ont été bien accueillis, ont été soutenus et ont pu continuer à faire de l'art. Mais la majorité avait de gros problèmes économiques. C'est dur d'économiser quand vous êtes artiste. Vous devez avoir plusieurs projets en parallèle, c'est ce qui le rend d'un côté si intéressant. Mais vous avez toujours la compétition entre pays frontaliers. Vous devez vivre avec. Certains artistes libanais vont vous dire que nous leur avons pris de l'espace. Et en même temps, certains Libanais vont venir soutenir des expositions d'artistes syriens et des artistes syriens vont soutenir des expositions d'artistes libanais. Alors, pour résumer, ce n'est clairement pas une situation normale. Celle de la Syrie allant en s'empirant, cela a eu des répercussions sur l'économie du Liban. Et c'est également très dur pour les Libanais eux-mêmes. Et c'était pire pour les Syriens, disons. Étant déjà réfugiés, ils devaient continuer à s'occuper d'eux-mêmes, trouver de l'argent pour leurs projets, essayer de les faire prospérer. Je pense que c'est dur et que ça l'est de plus en plus jour après jour quand on entend les dernières nouvelles venant du gouvernement libanais qui ne donne plus de visa. Beaucoup de gens sont bloqués, les réfugiés comme les artistes. Ils sont bloqués au Liban, ils n'ont pas d'opportunité pour en sortir et n'ont pas d'opportunité de rentrer en Syrie. C'est une très mauvaise situation.
Omar, je te propose d'écouter une interview réalisée par notre collaborateur Iyad Kalas de Radio Souriali. Il a passé un coup de téléphone au caricaturiste Ali Ferzat, que tu dois bien connaître, célèbre caricaturiste syrien, très contestataire envers le régime de Bachar al-Assad. Il a d'ailleurs été tabassé et laissé pour mort par les hommes du régime en 2011. Il réagit au téléphone aux récents événements qui ont traversé la rédaction de Charlie Hebdo en France le week-end dernier.
Ali Farzat, le caricaturiste syrien, bienvenue. Ma première question est en lien direct avec les dessinateurs français victimes d'une attaque terroriste sur Charlie Hebdo. On aimerait avoir ton regard là-dessus, d'abord en tant que dessinateur et puis en tant que Syrien. Tout d'abord, je n'étais pas surpris par cet événement. Je le sentais venir, car aujourd'hui, il y a des bandes qui s'activent contre les principes de la liberté, de la démocratie, les valeurs humaines. et toutes les valeurs nobles. Cette chose a commencé il y a longtemps, même avant mon agression à Damas. Le tourisme n'a donc pas de patrie ou d'une géographie. Il se déplace partout dans le monde. C'est une sorte de peste. Aujourd'hui en France, demain dans un autre pays. On a aussi vu en Syrie 4 ans de crimes de terrorisme et de théories de destruction de la même manière. Ce que vous dites me mène à la deuxième question, car beaucoup de Syriens ont comparé cet attentat à l'agression dont vous avez été la cible ou encore l'assassinat de Najil Ali, le dessinateur palestinien, et beaucoup d'autres journalistes qui ont travaillé en Syrie dernièrement. Que pensez-vous de cette comparaison et quels sont les points communs? Ces bandes n'ont pas une seule forme. Ce n'est pas seulement le terrorisme extrémiste fanatique qui se réclame de l'islam. Il y a aussi les régimes dictatoriaux, totalitaires, qui, par leur méthode, ressemblent beaucoup au terrorisme. Mon agression à Damas était l'œuvre du régime, dans la même logique de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Je crois aujourd'hui, pleurer ne sert à rien. Il faut que tous les gens de bonne volonté, les libertaires, les penseurs, les artistes, se mettent à affronter ce terrorisme. Ne pas en utilisant la même méthode, mais plutôt en développant le travail artistique et l'éducation pour que les gens s'en rendent compte, pour que les gens prennent conscience et cessent d'être écartés. Il faut les sortir de l'ignorance. Pour toi, personnellement, quelles sont les limites de la liberté d'expression dans le cas où elle peut porter atteinte à des personnes ou des croyances? Écoute, le monde n'est pas stérilisé, homogène. Il ne peut pas être comme chacun voudrait qu'il soit. C'est pas possible. Il y a un Dieu. Il y a des tribunaux, des lois qui jugent les gens. Tu ne peux pas limiter le monde à tes propres concepts. Ton devoir, c'est de combattre des idées avec d'autres idées. Quand ils ont commis cet acte contre ces artistes, ils ont porté atteinte à l'islam plus qu'aux artistes eux-mêmes. Ils ont collé cette accusation sur les musulmans qui vivent partout en Europe et dans le monde. C'est un outrage plus grand que le nombre des victimes. Aujourd'hui, ils ont assassiné l'islam. Ces gens-là de Daesh ou autres, ils imposent leurs limites à ne pas dépasser pour Dieu, mais leur État islamique ne reconnaît aucune limite. Une dernière chose, Ali Farzad, si vous pouvez vous adresser à partir de notre antenne au peuple français et à tous ceux qui habitent en France. J'adresse mes condoléances aux familles de victimes, parce qu'elles sont seules et sincères. Parmi ceux qui ont participé à la marche, vous imaginez, il y a parmi les participants des criminels. Vous imaginez Netanyahu dans cette marche, lui-même accusé de crime, ou même Obama qui adresse ses condoléances maintenant, et qui n'a rien fait lorsque nous étions bombardés par des armes chimiques, en faisant des lignes rouges et vertes et j'en sais quoi encore. C'est pour cela la vraie condoléance va aux familles des victimes. Et même si cette attaque ne m'a pas surpris, je suis extrêmement triste. Ali Farzad, tu étais avec nous de Koweït, merci beaucoup.
Ali Farzad au micro de Iyad Kalas de Radio Souriali. Nous sommes toujours avec Omar Ibrahim par téléphone. Omar, tu as entendu cette interview de Ali Farzad et j'aurais aimé avoir ta réaction, ton point de vue en tant qu'artiste syrien réfugié. J'imagine que c'est une situation, ce que décrivait un peu Ali Farzad, une situation bien connue pour toi.
Nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Nous sommes d'accord à propos des meurtriers de Charlie Hebdo. Nous sommes d'accord sur la liberté d'opinion. Je voulais juste ajouter quelque chose à propos de cette liberté d'opinion. Comment appliquer cette règle à soi et comment respecter les autres opinions du monde? Je pense que l'on devrait être un peu plus responsable dans ce genre de cas. Que veux-tu dire? Et où est-ce que ça va te mener? Je préfère adopter une position plus modérée. Je préfère que l'on construise des ponts entre les différentes cultures plutôt que des murs. Je suis absolument d'accord avec Ali Ferzat. C'est un crime, c'est un énorme crime. Nous partageons le même avis à propos des terroristes. Le monde les refuse, ces extrémistes. Nous croyons vraiment à la construction de ponts entre les uns et les autres plutôt que des murs. Mais en même temps, je pense que la responsabilité est commune et elle nous concerne tous. Ce n'est pas un groupe contre un autre groupe. C'est mon opinion. Je pense aussi que la crise très ancienne qui se déroule en Syrie vient réellement du manque de compréhension de chaque côté. Il ne faudrait pas ignorer l'autre d'en face. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo est un crime immense. Nous sommes tous contre ça. Nous vivons dans le même environnement, avec ces gars-là, avec ce sentiment de danger qui nous traverse. Et pourtant, je pense que on pourrait en dire bien plus, parce qu'ils avaient une responsabilité avec ce magazine, et ils auraient pu mieux se couvrir. Je ne sais pas où est la limite à franchir, où est-ce que tu peux aller plus loin. J'espère juste que les gens seront un peu plus sensés sur ce qu'ils disent, comment ils le disent et pourquoi ils le disent comme ça. Quand tu veux dire quelque chose à travers ta peinture, ta musique, ton écriture, tu dois construire quelque chose pour la communauté, pas juste pour toi. Amener les gens à un endroit, les faire réagir, pas pour les rendre furieux. Nous sommes contre ça.
Merci beaucoup Omar Ibrahim d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Côte à Côte. Je rappelle que tu as ta première exposition à Paris au 15 rue Réaumur, une exposition qui se tiendra du 22 janvier au 25 janvier. Tous les liens seront sur le site de Radio Grenouille et de Radio Soyali. Merci beaucoup. On va faire une petite respiration musicale dans Côte à Côte avec Mashrou Leila, Lil Watan.
يتحكم بالمصير نحنا من نسيم نطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يقاسوك حتى تبيع حريتك لا ما يضيع الوطن قالوا لك حاجة تبشر طرق اسمي شوي ليش مكشر طرق اسمي شوي I'm
Côte à côte.
Côte à côte.
Tous les mois, nous nous permettons de glisser un micro dans la cuisine de Souri Ali. Une recette préparée et mise en onde, tout en saveur et en culture. C'est le moment de Fatouche dans Côte à côte.
Fatouche.
Alors, je ne veux pas me dire l'histoire de la Fatouche.
Alors, salade tchèque, oignon frais tchèque, menthe tchèque, citron.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ça? Oh là là, t'as reçu ton salaire en légumes ce mois-ci?
Non, j'ai fait un hold-up dans un rayon légumes au supermarché aujourd'hui.
Mais sans blague, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu prépares?
Pour ce soir, le chef te proposera, comme entrée, une salade syrienne, fatouche.
Ah ouais, j'en ai déjà mangé dans un resto libanais, je crois. Mais attends, c'est libanais ou c'est syrien?
Plus ça change, plus c'est les mêmes choses. Je t'explique en fait. Les recettes de la cuisine dans la région sont les mêmes. Mais à chacun son style et ses ingrédients, en plus ou en moins.
Donc la fatouche, c'est libanais ou c'est syrien?
Oh non, pitié. C'est la dispute sans fin de mon père syrien et de ma mère libanaise.
Et au final, qui gagne d'habitude? C'est quoi l'origine de la recette?
On ne sait pas. C'est même peut-être palestinien. En fait, les frontières comme on les voit aujourd'hui sont le résultat de la colonisation franco-anglaise après l'occupation ottomane et puis la guerre dans la région et la création de l'État israélien. Du coup, tous les pays au Moyen-Orient ont moins de 200 ans.
Mais et la fatouche?
Eh bah, ben, on s'en fiche. Tu peux même la considérer comme une recette extraterrestre si tu veux. L'important, c'est que c'est bon et tout le monde en mange au Moyen-Orient.
Mais on en mange aussi en France. J'avais adoré la fois où j'en ai goûté dans un restaurant libano-syriano-palestinien.
Voilà, t'as tout capté. Allez, tu dois m'aider à porter tous ces ingrédients à la cuisine.
Oula, je me souvenais pas qu'il y avait autant d'ingrédients dedans. Quel sacré mélange.
T'as raison, mais c'est pas juste une recette. C'est un des plats traditionnels qui représente la vie au Moyen-Orient. Nous sommes exactement comme ça. Plein de groupes mis ensemble pour créer un peuple.
Tu veux dire des musulmans sunnites et chiites, mais aussi des chrétiens?
Pas que ça. En fait, il y a plus de 20 confessions religieuses et plus de 10 ethnies différentes. Et il y a même 5 langues historiques qui existent dans la région.
Waouh, quelle diversité! Et ça marche bien?
Des fois oui, et des autres fois, c'est une raison pour faire la guerre, comme tu vois aujourd'hui. Hein.
Bah ouais, mais comme partout finalement.
Bref, allez, on commence.
Allez.
Les ingrédients principaux pour le fatouche sont de tomates, un concombre coupé en cubes, 12 oignons frais, 4 feuilles de salade verte, un peu de mâche, de persil et de la menthe fraîche, tout coupé finement. Mais si tu veux, tu peux ajouter n'importe quel autre légume.
Bah allez, je commence à couper. Toi, tu fais quoi pendant ce temps-là?
Moi, je fais deux choses. Tout d'abord, je vais couper le pain plat. Je peux dire le pain libanais ou syrien, peu importe. Bref, je coupe le pain en petits morceaux comme des chips. Je vais le mettre dans le four avec un peu d'huile d'olive au-dessus. Et deuxièmement, je prépare la vinaigrette.
Et il y a quoi dans ta vinaigrette?
C'est la recette secrète. Il y a de l'huile d'olive, de l'ail, du jus de citron, du sel, du poivre, de la menthe sèche en poudre et du sumac.
Du sumac?
Le sumac, c'est une épice un peu acide. On l'utilise beaucoup dans notre cuisine. Tu peux trouver le sumac, la menthe sèche en poudre aussi, et le pain dans les épiceries syriennes, libanaises et même turques.
Je suis prête.
Moi aussi. Il faut maintenant mixer tous les légumes, ajouter la vinaigrette, bien mélanger et mettre le pain en chips au-dessus. Et nous, dans notre famille, en fait, on ajoute des olives noires.
Moi, j'aime pas trop ça. C'est obligatoire?
Non, du tout.
Alors, tu veux pas me dire l'histoire de la fatouche?
Personne ne sait exactement. Mais je peux te raconter les histoires que je connais.
Ça marche.
Il y a des gens qui disent que la fatouche a été inventée pendant la guerre pour utiliser des restes de pain sec avec tout un tas de légumes. Une autre source dit que c'est un repas inventé par les chrétiens dans la région pour le carême. Ou bien ça a été inventé par la famille fatouche libano-syrien, ou bien ça venait d'un surnom amoureux.
Ou l'histoire de comment la fatouche a traversé la Méditerranée pour qu'une Française qui a faim puisse le goûter tout de suite.
C'est possible aussi. Alors, bon appétit la Française.
Bon appétit le Syrien.
Côte à côte.
Char.
Méditerranée.
Le Bahar.
Akhbar.
Syrie.
Côte à côte.
Nous avons beaucoup parlé d'art aujourd'hui dans Côte à Côte. Et nous allons d'ailleurs continuer, parce que tous les mois, le webzine Ustasa Paris nous livre sa sélection des meilleurs rendez-vous culturels autour de la Méditerranée.
Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits, un coup de calage pour un coup de crayon.
Difficile d'ignorer dans cette chronique ce qui s'est passé le 7 janvier dernier à Paris. Au-delà de la pertinence de certaines caricatures, c'est le droit de s'exprimer dans le cadre autorisé par la loi qui a été attaqué par des armes. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous parler d'une très jolie rencontre que j'ai faite récemment. Celle d'un vieux monsieur algérien, Mohamed, croisé au hasard sur la place Slimane Azem dans le 14e arrondissement. Slimane Azem était un auteur-compositeur kabyle qui a vécu en exil en France après l'indépendance de son pays natal. Mohamed est venu à Paris visiter une multitude de lieux publics, nommés en l'honneur d'artistes algériens qu'il admire, mais qui ironiquement ne sont pas toujours reconnus dans leur patrie d'origine. Paris, terre d'accueil des voix libres, pour encore longtemps je l'espère. À quelques encablures de la rue Lounès Matoub d'ailleurs, l'Institut des cultures d'islam présente à partir du 15 janvier « Chercher l'erreur », une nouvelle exposition d'artistes égyptiennes, jordaniennes et algériennes, qui célèbre le quotidien comme acte de résistance dans une région meurtrie par l'après-printemps arabe. On descend vers le 20e arrondissement pour un duel au sommet entre Rami et Bachar, les deux fils du chanteur et joueur de oud libanais Marcel Khalife, qui ont délaissé la poésie engagée de leur père pour se tourner vers le piano et l'électronique. Cela se passe samedi 24 janvier à la Maroquinerie, dans le cadre du festival Beyond My Piano. Bachar Mar Khalife se produira également seul au Théâtre des Bouffes du Nord lundi 26 janvier. Par ailleurs, la Fondation de la Maison de Tunisie organise vendredi 30 janvier à la Cité Universitaire Internationale une soirée consacrée au street art tunisien avec la projection du documentaire Retour sur Djerbahoud en présence de Mehdi Bencher, concepteur de ce projet inédit de transformer un village entier en musée à ciel ouvert. Enfin à Marseille, la friche Belle de Mai présente dans le cadre de la 5e édition du festival Parallèle une exposition collective intitulée « Plus de 116, regard sur la création contemporaine en Tunisie ». Installations, photographies, vidéos, arts numériques, gravures et graffitis, « Plus de 116 » se veut le reflet d'une scène tunisienne bouillonnante où l'art se conjugue au présent de l'indicatif. Retrouvez l'actualité culturelle arabe à Paris, et bientôt à Marseille, sur ustazaparis.com et sur la page Facebook d'Ustaza à Paris. À bientôt!
C'est la fin de ce deuxième épisode de Côte à Côte sur les ondes de Radio Grenouille et de Radio Souriali, un épisode à retrouver en podcast, bien évidemment sur nos sites respectifs. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Humbert pour la réalisation de cet épisode et à la préparation. Nous avions Georges Daboul, Iyad Kalas, Emmanuel Morera, Célia Hassani, Nelly Fletcher et Simon Morin. Merci beaucoup, on se voit le mois prochain sur Radio Grenouille et Radio Souriali.
Radio Surya.
Radio Grenouille.
Côte à côte.
Côte à côte.
Nos chats.
Nos chatrines.
Côte à côte.
Ou à la chatna.
Culture.
Ou baharna.
Côte à côte.
On va finir par se comprendre.
Côte à côte.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.